Lizzie présente « Ils écouteront jusqu'à la fin ». Une nouvelle de François-Xavier Dillard, issue du recueil « Écoutez le noir », établie sous la direction de Yvan Faute, lue par Stéphane Ronchevski.
Les 2500 spectateurs de la Philharmonie de Paris applaudissent à tout rompre. On entend des hurrahs et des bravos qui fusent par-dessus la clameur et volent avec enthousiasme vers la scène. Abel Van Hoffen ne sourit pas. Il tient son Stradivarius dans une main. Son regard semble se perdre dans les courbes dorées et les circonvolutions complexes de la toiture de la salle Pierre Boulez. Il n'y aura pas de bis, il n'en donne jamais. Malgré la voix du public qui réclame à grands cris encore un peu de son talent et de sa maestria, il baisse la tête et ses longs cheveux bruns viennent couvrir son visage. Avant même le baisser de rideau, Abel est déjà dans sa loge. Il embrasse son violon et le dépose religieusement dans son étui. Il a en tête, de manière très précise, le planning de ses prochains concerts. Une suite de pays, de palaces et de salles prestigieuses. Il donne plus de 250 concerts par an, et encore, est-ce lui qui en a limité le nombre avec son agent? Ce soir, il a joué le concerto pour violon en Ré majeur opus 35 de Tchaïkovski et le concerto pour violon numéro 2 en Mi mineur de Mendelssohn. Deux œuvres majeures et virtuoses qu'il maîtrise parfaitement. Deux tubes qu'il se sent parfois condamné à jouer tant le public les lui réclame. Il y a tant d'œuvres moins connues, moins illustres qu'il aimerait leur proposer. Il y a aussi le génial Bach, le réjouissant Schubert et le brillant Mozart, mais en dehors de ces maîtres-là, difficile de proposer autre chose. Pourtant, au moment où il enfile son manteau, un mince sourire se dessine lentement sur son visage. Demain matin, il partira. Il ne jouera pas pendant 3 jours. De véritables vacances. Son avion pour Saint-Pétersbourg décolle à 8h27. Un peu plus de 5 heures plus tard, il sera là-bas. Il n'arrive pas à y croire. Dans moins de 25 heures, il tiendra peut-être dans ses mains un document d'une valeur inestimable. Une chose dont il rêve depuis des années, qui marquera de son empreinte l'histoire de la musique et aussi sa carrière. C'est un ami très proche qui lui a parlé de ce vieux collectionneur russe. Si quelqu'un sait si ce truc existe et où ça se trouve, ce sera lui et personne d'autre. Abel s'était donc empressé de le contacter. Fort heureusement, le vieux marchand s'exprimait dans un anglais parfait. L'homme s'était d'abord rappelé le bon souvenir de son ami, puis s'était dit honoré qu'Abel, dont il connaissait évidemment la carrière et la renommée, l'appelle. D'abord surpris par sa demande, il avait dû lui faire répéter au moins à 3 reprises l'objet de sa requête.
Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'un tel document puisse exister ? Et que moi je puisse non seulement en avoir eu connaissance, mais aussi, grand Dieu, y avoir accès. C'est absurde.
Abel avait dû lui expliquer quelle source lui avait permis de remonter cette trace, et la longue quête qui l'autorisait aujourd'hui à considérer que cela n'était pas une fantaisie, que c'était la chose la plus sérieuse qui soit.
Bien. Bien, mon jeune ami, peut-être, peut-être. Mais il n'est pas question que nous continuions à parler de ça au téléphone. Venez donc me voir à Saint-Pétersbourg, je suis au début de la rue Sadovaya. Vous ne pourrez pas rater la boutique. Mais je préfère vous prévenir. Ce que vous souhaitez contempler a un prix exorbitant. Et je me dois de vous dire par amitié pour notre ami commun que cela ne serait pas sans conséquences.